Vous écoutez
RMC.
Il est 8h, on est lundi, on est ensemble sur RMC. Merci de nous avoir choisis pour vous réveiller.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, ou plutôt...
Salut tout le monde.
Ou plutôt salut tout le monde, comme l'a crié Marquinhos hier lors des célébrations du PSG de la Ligue des Champions au Champ de Mars et au Parc des Princes. On va y revenir dans ce journal, mais le contraste est total avec les plus de 890 interpellations de samedi. C'est le nouveau bilan ce matin. Emmanuel Macron, que vous allez entendre, promet d'être intraitable avec les casseurs. Et puis l'autre information du matin, c'est la France qui annonce l'arraisonnement d'un nouveau pétrolier russe, le quatrième en l'espace seulement de quelques mois.
Emmanuel Macron promet donc d'être, je cite, intraitable avec les casseurs de samedi soir.
Oui, écoutez ce qu'il a dit à propos des violences, c'était hier soir à l'Elysée où il recevait les joueurs du Paris Saint-Germain.
C'est pas le foot ça, c'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. Donc, merci à nos policiers, à nos gendarmes, on sera intraitable avec ceux qui ont été attrapés, on ne veut plus voir ça, fini, on en a ras le bol. Terminé.
Voilà donc ce que dit Emmanuel Macron. Je donne le tout dernier bilan du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Il t'a dit il y a quelques minutes, plus de 890 interpellations. Donc, samedi soir, chiffre en hausse de 45% par rapport au premier sacre des Parisiens l'année dernière. Pas qu'à Paris, dans 71 villes au total, partout en France. Donc, 178 blessés parmi les forces de l'ordre, qui étaient pourtant déployés en nombre. 22 000 policiers et gendarmes dans tout le pays et 8 000 rien qu'à Paris. Pierre Bazin, du service police-justice à RMC, vous êtes en direct avec nous ce matin. Il y a de premiers casseurs qui vont passer devant la justice aujourd'hui.
Oui, dès aujourd'hui, plusieurs personnes doivent comparaître en correctionnel au tribunal judiciaire de Paris, majoritairement pour des violences sur des policiers ou des gendarmes, mais aussi parfois pour des vols, des dégradations et des ports d'armes. Parmi les 312 personnes encore en garde à vue, toutes ne seront pas forcément jugées en comparution immédiate, mais la justice s'attend toutefois à un grand nombre de prévenus, bien avant le début de la finale de la Ligue des Champions. Le tribunal judiciaire annonçait d'ailleurs s'être organisé pour augmenter sa capacité de jugement dans les jours suivant le match. Un dispositif identique avait d'ailleurs été mis en place l'année dernière dans la foulée de la première Ligue des Champions remportée par le PSG. En 2025, une très large partie des personnes présentées en comparution immédiate ont été condamnées à de la prison avec sursis ou sanctionnées par des mesures alternatives. Pour rappel, Quentin, la peine encourue pour des violences sur des policiers, c'est 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
Alors, des festivités qui ont été endeuillées dans la capitale avec la mort d'un jeune de 24 ans. On verra ce que dit tout ça Jordan Bardella. Du Rassemblement National, invité ce matin d'RMC au micro d'Apolline, ce sera 8h30. Le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, lui dénonce des violences mises en scène sur les réseaux sociaux. Alors il le disait, c'était hier après-midi, depuis le Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel, où l'image était belle. Il y avait 100 000 personnes pour acclamer les joueurs dans l'après-midi, et donc où Ousmane Dembélé a fait une promesse aux supporters parisiens.
Une fois c'est bien, mais deux fois c'est mieux pour le back-to-back. On revient l'année prochaine pour la troisième.
Voilà, les Parisiens qui rêvent désormais d'une troisième Ligue des Champions. Le ton était le même au Parc des Princes dans la soirée devant 47 000 personnes. Ousmane Dembélé et les autres internationaux du Paris Saint-Germain qui rejoindront demain l'équipe de France à Clairefontaine pour préparer la Coupe du Monde qui commence dans 10 jours tout pile ce matin et dont RMC est la radio officielle. Notre envoyé spécial d'ailleurs aux États-Unis, Martin Bourdin, qui est déjà sur place en direct de Miami précisément, nous racontait un petit peu plus tôt ce matin que des Américains n'étaient même pas au courant que le Mondial arrivait là dans leur ville. On le retrouvera toute la semaine en direct, tous les matins sur RMC. Alors en attendant, l'armée américaine dit ce matin qu'elle a encore mené des frappes durant le week-end en Iran, qui de son côté dit avoir visé une base utilisée par les États-Unis. Tout ça, vous le savez, en plein cessez-le-feu. Et l'autre info du matin, c'est la France qui a de nouveau arraisonné un navire pétrolier russe. C'est Emmanuel Macron qui l'a annoncé il y a quelques minutes, Romain Hougain.
Oui, c'est passé hier dans l'océan Atlantique à plus de 700 km à l'ouest de la pointe bretonne, dit le chef de l'État dans un message sur X, accompagné d'une courte vidéo. Voilà, un montage de 6 secondes sur ce drôle de fond sonore qui rappelle un peu ce que fait l'administration Trump pour communiquer sur ses opérations en Iran, de la propagande de guerre. On y voit notamment un hélicoptère survolant le navire russe dans un épais brouillard en haute mer. Un soldat descend en rappel attaché à une corde avant de monter à bord. Ce pétrolier actuellement escorté vers un point de mouillage était en provenance de Mourmansk dans le nord-ouest de la Russie. Il s'agit de la quatrième interception de ce type ces derniers mois. Des navires qui appartiennent à la flotte fantôme russe, soupçonnée de contourner les sanctions internationales infligées à Moscou. Les trois précédents navires avaient pu repartir après le paiement d'une amende.
Emmanuel Macron, tiens, on en parle, il recevra à 8h30 ce matin à l'Elysée le patron d'un géant japonais de la tech. Géant qui a promis d'investir 75 milliards d'euros en France liés à l'intelligence artificielle durant les 5 prochaines années. C'est à l'occasion de la 9e édition du sommet Choose France, le rendez-vous d'Emmanuel Macron. Il va recevoir 200 grands patrons aujourd'hui au château de Versailles. Alors c'est dans ce contexte aussi que le SMIC augmente ce matin pour un peu plus de 2 millions de Français. C'est un effet mécanique lié à l'inflation. Une personne au SMIC touchera désormais 35 euros net en plus à la fin du mois. Et alors ça paraît complètement fou, mais ces 35 euros suffisent à faire basculer les salaires minimums de 70% des branches professionnelles quand même en dessous du SMIC. Le gouvernement met la pression à ses 126 secteurs concernés pour relever les salaires. Mais alors en attendant, il y a des milliers de Français qui gagnent moins que le SMIC, Antonin Audion.
C'est le cas d'Isabelle, 59 ans, employée dans un abattoir. Elle venait de dépasser le niveau du SMIC au bout de 25 années dans cette même entreprise. Mais à partir d'aujourd'hui...
Le SMIC, il va être 4 euros plus cher que moi. Je trouve ça inadmissible.
Même situation pour Claire, 10 ans d'ancienneté dans ce même abattoir, où elle a occupé de nombreux postes. Son salaire a lui aussi été rattrapé par cette revalorisation du SMIC, si bien qu'un débutant sans aucune expérience touchera le même salaire qu'elle.
C'est pas normal du tout. On a de l'expérience plus de l'ancienneté. Ce serait pas normal qu'il gagne plus cher que moi.
Dans ces entreprises, en effet, les premiers échelons de la grille salariale sont encore sous le SMIC, c'est illégal et cela concerne 70% des branches professionnelles selon le ministère du Travail. Une stratégie pour tirer les salaires vers le bas selon Thomas Vacheron, secrétaire confédéral de la CGT.
Dans les grilles, quand les niveaux sont complètement tassés et complètement en dessous du SMIC, ça tire mécaniquement tous les salaires vers le bas car les plus bas niveaux ils sont en dessous du SMIC et donc du coup ça tire tous les niveaux et tous les salaires vers le bas.
Les entreprises ont 45 jours pour lancer des négociations avec les partenaires sociaux et se mettre en conformité. Sans accord d'ici à la fin de l'année, des sanctions pourraient tomber, menacent déjà le gouvernement.
Les recherches doivent reprendre aujourd'hui à Fleurance, dans le Gers, ville où la jeune Liana, 11 ans, a disparu depuis vendredi dernier à la sortie du collège, depuis qu'elle est montée dans la voiture d'un homme de 41 ans, d'après un témoin, homme qui a été depuis placé en garde à vue. C'est le début de la deuxième semaine à Roland-Garros, qu'on vit tous les jours sur RMC, notre radio digitale à 100% terre battue. Alors, on boude pas notre plaisir, il reste une Française pour cette deuxième semaine. C'est Diane Paris qui va jouer son huitième de finale aujourd'hui face à une adversaire moins bien classée qu'elle, Elena Marjac.
Et quoi de mieux que d'être pour la première fois en deuxième semaine d'un grand chelem à la maison. Roland-Garros, c'est comme chez elle ou presque. Diane Paris a grandi à quelques pas du stade. Et ce huitième de finale aujourd'hui est largement abordable face à Maja Chwalinska, une Polonaise 114e mondiale.
Une belle opportunité de pouvoir jouer une fille comme ça en huitième de finale de grand chelem, capable de sortir un très gros niveau de jeu aussi. On a envie et on se voit aller plus loin.
Plus loin, sa coach aussi y croit et l'espère. Julie Coin s'occupe de Paris depuis l'hiver dernier.
Faudrait qu'elle cède comme elle a très bien fait du public. Elle joue sur ça et la confiance qu'elle a accumulée ces derniers temps.
Au-delà de sa confiance et de son calme, Diane Paris s'appuie sur son revers à une main qui fait des dégâts sur terre. Pour Florence Serra, consultant RMC Sport, elle s'avance clairement en favorite sur ce match.
Là, on l'attend. On attend à ce qu'elle gagne, continue juste à faire ce qu'elle fait. Comme Loïse Boisson l'année dernière, on a envie qu'elle y aille aussi en quart, en demi, pourquoi pas plus.
Alors pourquoi ne pas marcher dans les pas de Loïse Boisson, demi-finaliste surprise l'an passé? Diane Paris l'a confié. Si Loïse l'a fait, alors pourquoi pas elle aussi?
Mais alors l'image du jour à Roland-Garros, ce sera surtout les joueurs du Paris Saint-Germain qui vont présenter comme l'année dernière leur trophée, la Ligue des Champions, au public de Roland-Garros, certainement sur le cours central.
C'était le journal de Quentin Vinet et c'est l'heure de l'économie avec Emmanuel Le Chypre.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
C'est le dernier sommet Choose France aujourd'hui pour Emmanuel Macron, avec des annonces qui devraient être spectaculaires.
Mais oui, Apolline, il n'y a pas que le Paris Saint-Germain qui gagne. L'équipe de France de l'attractivité est-elle aussi en pleine forme? 9e édition du sommet Choose France est la dernière pour Emmanuel Macron, l'inventeur de cette manifestation qui va accueillir sous les ors du château de Versailles plus de 200 chefs d'entreprise de 50 pays différents pour les inciter à investir en France. Et ce sera, si on s'en tient aux chiffres, une sortie en apothéose, puisque 87 milliards d'euros d'investissement avait été annoncé sur les 8 premiers sommets Choose France. Donc 87 milliards sur 8 sommets. Et là, un seul projet devrait concentrer 75 milliards d'euros d'investissement étranger, au maximum 75 milliards d'euros d'investissement étranger. C'est celui du conglomérat japonais SoftBank, un projet qui consiste à créer jusqu'à 5 gigawatts de capacité de data center, potentiellement la consommation de 3 nouveaux EPR, le data center, c'est vraiment au cœur des plus gros projets d'investissement étrangers depuis plusieurs années maintenant.
Ces fameux data centers, c'est donc l'avenir de l'industrie française.
Alors, c'est positif parce que, évidemment, ça veut dire que la France est attractive, notamment pour son énergie nucléaire. Mais attention, un data center, c'est du béton, des serveurs, des transformateurs électriques, c'est peu d'emplois. C'est aussi peu de valeur ajoutée parce que les data centers, c'est pas l'intelligence artificielle, c'est ce qui héberge l'intelligence artificielle. La valeur de l'IA, c'est quoi? C'est les algorithmes, c'est les données, c'est les brevets, c'est les puces, et tout ça est capté par les OpenAI, Anthropic, Google, Nvidia. Et donc le défi, c'est désormais de faire venir aussi les entreprises qui utiliseront cette puissance de calcul pour produire, innover et employer en France.
Les chiffres du jour, Emmanuel, comme chaque matin sur RMC, ça monte ou ça descend?
Oh non, plutôt des bonnes nouvelles. Ça descend. Le gazole, 2,06 €. Le litre, c'est 5 centimes de moins qu'il y a une semaine. Ça n'a jamais été aussi bas depuis la mi-mars. Le samplon 95, qui se maintenait sur des plateaux très élevés, lui aussi commence à descendre, pour le plaisir, 2,004 € aujourd'hui. Donc demain, on devrait casser la barre des deux. C'est 3 centimes et demi en moins d'une semaine. Le pétrole, $93.50 le baril. C'est le plus bas quasiment depuis le début de la guerre en Iran. Et le gaz est stable, presque 47 € le mégawatt-heure.
C'était l'économie avec Emmanuel Lechypre. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Il est 8h12, on se retrouve dans un instant. Arnaud Demange revient pour nous faire rire. À 8h30, notez-le, le face-à-face, mon invité, c'est Jordan Bardella, le président du Rassemblement National. Et puis à 8h50, nouveau rendez-vous sur RMC. On sera en direct de Miami aux États-Unis avec notre envoyé spécial Plongée dans l'Amérique. Désormais, ce sera tous les jours à 8h50. Plongée dans l'Amérique de Trump. Dans l'Amérique de Trump, avant la Coupe du Monde qui commence dans 10 jours. C'est déjà le moment sur RMC, les 8h12.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Bonjour.
Bonjour
tous les amis.
Comment ça va?
Ça va et vous, Apolline? Bonjour Mathieu, bonjour Élise, bonjour Géraldine. Et ce matin, on est tous un peu tristes, ces jours de deuil à RMC.
Et pourquoi?
Puisque le PSG a gagné la Ligue des Champions. Alors notre actionnaire, l'armateur marseillais, CMA, CGM, a décrété 3 jours de deuil et a décidé de punir tous les traîtres à RMC qui ont publié des stories Instagram avec des commentaires à la gloire du PSG. Il y a 15 jours de salaire retenu par story. Mathieu, vous devez 50 salaires à Rodolphe Sadé. Et Jérôme Roten sera envoyé dès ce soir sur un super tanker dans le détroit d'Ormuz. Le bateau est arrivé. Au revoir Jérôme. Bon voyage. Moi j'ai regardé le match dans un bar avec des copains. Il y avait des CRS à côté de nous. Et quand Gabriel, le défenseur d'Arsenal, a manqué son pénalty, tous les CRS ont fait « Oh putain, c'est pas vrai !» Et après ils sont partis protéger des vitrines. Voilà, c'était leur soirée. Il y avait des gens bourrés dans toutes les rues qui vomissaient partout parce que...
Quand je suis content, je vomis. Je suis hyper content.
Et il y a eu de la casse, il y a eu de la bagarre pour fêter le titre. C'est d'ailleurs assez curieux ce réflexe de se battre quand on est content. Vous imaginez si on faisait la même chose, nous, dans la vraie vie, au bureau, par exemple. Oh, monsieur le directeur, merci pour mon augmentation. Ça va tellement... Je ne sais pas comment vous remercier. Ah, et vous m'avez mis un coup de boule. Ouais, parce que je suis tellement content, ça va me changer la vie, vous imaginez. Oh, allez, je vous en remets un deuxième. Tiens, tant qu'on parle de sport... en tennis, vous vous souvenez de l'adversaire de Moïse Kouamé jeudi dernier?
Adolfo
Valero. Bon, on savait que les Adolphe n'aimaient pas les Moïse. Eh ben, il a pas vraiment digéré sa défaite. Il a déclaré que le match n'aurait pas dû être arbitré par une femme. Voilà, il a dit pas au niveau. En fait, il était dans son bunker à taper du poing sur la table. Fräulein Nischkut! Tennis kaput! C'est juste que t'as le seum contre Moïse Kouamé, c'est tout. Parce que Moïse, il lui a ouvert sa mère en deux. Et il est pas content. Allez, rentre chez toi, Adolfo. Hey, gros bisous à Pedro Miguel Goebbels.
Non.
Poutou.
Raphaël Glucksmann dévoile ses propositions pour 2027. Hein, dans un livre programme. Le titre, Nous avons encore envie.
Oui, nous avons encore envie. On dirait un message de relance d'un Versaillais sur Tinder. Après 4 jours sans réponse, Maud, Nous avons encore envie. Le livre... le livre, il fait 200 pages, mais on peut le synthétiser en une phrase. Et si on faisait une gauche de droite, mais sympa. Alors, est-ce qu'il va y aller à la présidentielle, Glucksmann? J'ai entendu, il se donne 3 mois. La semaine dernière, il a d'ailleurs fait tous les gros plateaux, le 20h de TF1, Quotidien, machin, patin, couffin, pour dire juste, écoutez, monsieur Boulot, pour la présidentielle, je sais pas, faut voir, on verra dans 3 mois.
Mec, quand t'as le 20h de TF1, c'est le moment de l'annoncer ta candidature. Enfin, c'est pas le genre d'endroit où tu vas tous les 15 jours. Enfin, je sais pas, Alain Bauer dans le face-à-face.
Oh, merci.
Vous voyez ? Pourquoi il va là-bas pour dire qu'il hésite ? Ça fait quand même pas envie.
Non.
Tu veux rencontrer les candidats à la présidentielle les moins chauds de ta région ? Envoie Glucksmann au lieu de... Et découvre une vague envie de faire des trucs. Bon, peut-être avec des gens.
Glucksmann au 8-12-12 pour des moments bof avec des gens que bon.
Il est pas motivé, quoi. En fait, Glucksmann, tu sens que tu le fais un peu chier à être moins intelligent que lui. Voyez, est-ce qu'il va s'abaisser à nous gouverner? C'est pas dit. Mais alors, attendez, tiens, j'ai une blague de feu. Alors, accrochez-vous.
Une blague de feu.
Ouais,
il annonce la blague de feu.
Cette indécision de Glucksmann, Léa, vous verriez dans quel état ça la met. Allez.
Oh,
Allez, hier c'était la fête des mères. Hein.
Oui, et je sais, Apo, que vous avez été gâtés puisque vos enfants se sont cotisés pour vous offrir un jerrycan d'essence. les braves petits, avec la poésie habituelle. Maman, tu es la plus belle des mamans, mais comme il y a la guerre en Iran, tu ne peux plus te déplacer, nous conduire aux activités. Alors nous t'offrons de l'essence pour profiter de notre enfance. Ouais, ça va, j'ai compris. Ouais. Je suis taxi, quoi. Alors j'ai lu que Total Energy avait décidé de baisser le prix des carburants pour la fête des mères et la fête des pères. C'est beau quand même, une multinationale qui pense à la famille. Est-ce qu'ils nous feront le pétrole moins cher pour la crémation de mamie aussi,
ça? Oh.
Alors du coup,
non.
C'était une bonne ambiance chez Total tout le week-end.
Bonjour, le plein de samplon 95, s'il vous plaît.
Oh mais oui, vous allez chez vos parents pour leur souhaiter une bonne fête?
Alors, non, c'est parce que je suis orphelin.
Ah bah non, monsieur, désolé. Pas de maman, pas de carburant.
Oh non.
C'est la règle. Pas de daron, pas de samplon.
Allez,
fous le camp de ma station, Rémi sans famille. Oh ouais, ils sont pas gentils. Hein. Allez, à demain.
C'est pas gentil. Allez, merci beaucoup, Arnaud. Au 32-16, vous êtes nombreux à réagir à ces violences dans la nuit de samedi à dimanche après la victoire du PSG. Et Laurent Nunez qui annonce ce matin plus de 890 interpellations. Bonjour Grégory.
Oui, bonjour.
Grégory, vous êtes en Seine-et-Marne et vous êtes gérant d'un parc auto. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous samedi soir? Vous avez observé tout ça?
Alors, je vais être bref parce que je dois faire assez vite parce que je suis en plein boulot.
Oui, moi, j'étais
abonné de 2006 à 2010 au Parc des Princes.
Ouais.
Déjà. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu maintenant, avec ce qu'on connaît maintenant. Avant, c'était plutôt, on va dire, bon enfant. Il y avait quelques débordements, mais rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on voit, mais c'est n'importe quoi et ça ternit l'image du club. Par exemple, là, il y a 20 ans, il y avait la finale Paris contre Marseille, plus la Coupe du Monde en 2006. Et bon, j'étais jeune aussi à l'époque, mais il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas de casse, de voitures brûlées, d'autres choses.
Il y a eu des violences, mais c'était des violences plus qu'on pourrait raccrocher plus au hooliganisme. Mais il y a eu des morts.
Il y a eu des morts.
Oui, il y a eu des morts, mais bon, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe maintenant. Maintenant, c'est de la casse, il y a plein de choses.
On est passé, et je vous recommande d'ailleurs, c'est assez intéressant, il y a vraiment un historique ce matin dans le journal Le Figaro qui est fait par Jérôme Fourquet, le sociologue, qui parle de la bascule entre hooliganisme et violences urbaines. Alors oui, mais cela dit, ça ne veut pas dire que dans le hooliganisme, il n'y avait pas de morts.
Oui,
c'était pas
sûr,
la même nature de violence, ou en effet avec un peu moins de casse urbaine, mais il y avait des violences et il a fallu d'ailleurs s'y attaquer.
Oui, je suis d'accord. Ils sont attaqués à tout ça, ok. Ils ont fait le plan Le Prou, mais par contre ils ont stigmatisé pratiquement tous les supporters du Paris
Saint-Germain. Vous n'avez même pas vibré du côté joyeux, ou est-ce que ça vous a complètement gâché la fête à vous, Grégory?
Alors, bah, déjà, personnellement, j'ai pas regardé le match parce que, bah, déjà, je travaillais, pas pu.
D'accord. Bon.
Et puis, honnêtement, depuis 2010, c'est plus du tout pareil qu'avant, quoi.
Ça vous a découragé, quoi. Vous êtes plus dans.
Ah oui,
vous êtes...
carrément. Non, non, pas du tout. Ça a plus rien à voir avec ce qu'on a connu. Et puis,
Merci Grégory d'avoir appelé au 32-16. Vous êtes nombreux hein, à réagir ce matin, très nombreux à réagir à ces violences. Et je pense en particulier à cette supporter de Lens qui disait « on sait faire la fête quand même après le foot, on l'a montré nous à Lens, sans qu'il y ait forcément de violence ». Je pose la question dans un instant, que faire? Comment est-ce qu'on peut justement contrer ces violences-là? À Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, quasi candidat à la présidentielle, il est mon invité dans un instant sur RMC et sur BFM TV. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Jordan Bardella.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin dans ce studio. Vous êtes le président du Rassemblement National, député européen et candidat bis, je l'appellerai comme ça, à l'élection présidentielle. On va revenir évidemment sur ce qu'il s'est passé après la victoire du PSG en Ligue des Champions. Nuit de violence à Paris et dans plusieurs villes de France. Le ministre de l'Intérieur annonce ce matin qu'il y a eu 890 interpellations, 45% de plus que l'an dernier. On va revenir évidemment sur ces interpellations, sur ce qu'il s'est passé, sur les quelques jugements qui devraient arriver dès cet après-midi avec les premières comparutions immédiates. Mais je voudrais qu'on se projette, qu'on essaie d'imaginer qu'on est dans un an. Dans un an, même jour, même heure, quasiment. Imaginons le scénario où vous auriez été élu deux semaines plus tôt que la Ligue des Champions, élu président de la République, vous ou Marine Le Pen. Deux semaines après les élections présidentielles, il y a la finale de la Ligue des Champions. Le PSG, imaginons, est en finale et gagne. Comment est-ce que vous feriez pour que ce soit pas la même chose?
Bon, d'abord, très certainement, deux semaines après le second tour des élections, il aurait été très certainement du rôle du président de la République, puisque la passation n'aurait pas eu lieu, de gérer de tels incidents. Mais d'abord, j'aimerais dire comme...
Vous vous défaussez un peu quand même.
Non, je vais vous présenter... Non, je vais peut-être remettre un peu les choses en perspective.
Alors imaginons que c'est trois semaines après, c'est vous?
Ce qui apparaît pour beaucoup de Français... comme une non-réponse de la part de l'État. Parce que moi, je suis comme beaucoup de gens, j'ai été horrifié par les scènes du week-end. Nous avons vu, en plein Paris, des scènes de quasi-guerre civile. Des commerces ont été pillés, vandalisés, des policiers ont été pris à partie, des journalistes, des abribus ont été cassés. Et on a vu un climat et un déferlement de violence auquel nous sommes malheureusement en train de s'habituer et qui ne fait qu'empirer, mois après mois, année après année. Et si j'ai accepté votre invitation ce matin, c'est pour lancer un message d'alerte aux Français et leur dire réveillez-vous. Réveillez-vous parce que la France est en train de devenir un pays où la vie et la fête sont devenues aujourd'hui totalement impossibles. Il n'y a plus une seule manifestation liée au football, une seule manifestation sportive. Il n'y a plus de fête populaire, de fête de village dans notre ruralité, sans que cela dégénère systématiquement et que l'on voit se reproduire des comportements qui sont des comportements de prédateurs et qui sont systématiquement déployés selon le même mode opératoire. On arrive...
Systématiquement, dites-vous.
Systématiquement, on commence par défier les policiers, que l'on considère être une bande rivale. On s'en prend aux forces de sécurité, aux policiers, aux gendarmes, aux pompiers. On détruit tout sur son passage. On casse les commerces, on casse les abris de bus, on brûle des voitures. Ensuite, on pille. Et je dis aux Français, réveillez-vous, parce que dans quelques temps, ils casseront la porte des immeubles et ils rentreront dans vos appartements si l'État ne reprend pas la main sur sa politique de sécurité, sur sa politique pénale et par-dessus tout sur sa politique migratoire. Parce qu'il y a évidemment un lien, madame, entre notre incapacité depuis 30 ans à maîtriser l'immigration, à assimiler des populations qui sont arrivées dans notre pays et dont beaucoup aujourd'hui sont physiquement en France, mais dont l'âme et dont le cœur est ailleurs et ne rate jamais une occasion pour exprimer leur mépris à l'égard des institutions, leur haine de la France et pour s'en prendre à des symboles. C'est vrai avec les commerces, c'est vrai avec les voitures de famille modestes
ce matin,
qui n'ont que leurs yeux pour pleurer au petit matin.
Vous dites ce matin, Jordan Bardella, que ce qu'il s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche, c'est un lien avec l'immigration.
je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de Français qui vous répondent non. Vous voyez, il y a même des Français issus de l'immigration qui, lorsqu'ils sont arrivés en France, il y a très longtemps, ont fait un effort exigeant pour devenir Français, pour respecter les institutions, pour apprendre la langue, pour épouser le roman national. Et il y a aujourd'hui des jeunes qui sont issus de cette immigration, qui ne semblent pas soumis à cet effort et qui n'aura jamais encore une fois une occasion pour exprimer leur rejet des institutions et pour exprimer leur rejet de notre pays. Et c'est vrai que c'est bien souvent lié au football, c'est bien souvent lié à certains clubs de foot. Il y a quelques jours, je ne crois pas qu'il y ait eu des incidents de ce type lors de la victoire du RC Lens, lors de la Coupe de France. Lorsqu'il y a des manifestations liées au rugby ou à Roland-Garros, on ne voit pas ce type de scène se produire. Donc le monde ce matin nous regarde effaré. Nous avons perdu notre grandeur, nous avons perdu notre rayonnement et nous sommes désormais en train de perdre la main sur notre propre territoire, dans un pays qui se tribalise et dans lequel il n'y a plus aujourd'hui un seul territoire, madame, plus une seule commune, plus une seule ville, une seule banlieue, un seul village français où on est à l'abri de la violence et de l'insécurité. Donc cette question, elle sera évidemment au cœur de la campagne présidentielle et nous serons toujours, nous, au Rassemblement National avec Marine Le Pen, du côté de la protection des Français, de la tolérance zéro et de la sanction
avec
les criminels qui pourrissent la vie des honnêtes gens.
Il y a énormément de choses dans tout ce que vous venez de dire, c'est une sorte de long plaidoyer. On va s'arrêter sur votre tolérance zéro, sur les conséquences. Je vous reposerai quand même la question, parce qu'à un moment ou à un autre, si vous venez au pouvoir, il faut pouvoir assumer ce que vous dites. Et donc, quand je vous dis deux semaines après, il y a potentiellement le même scénario, comment on change. Mais vous dites, il y a un rapport avec l'immigration. Est-ce que vous dites comme Éric Zemmour, vous avez peut-être entendu ses propos ce week-end, il dit « Les violences d'hier n'ont rien à voir avec le foot, elles sont les premiers symptômes d'une guérilla de civilisation.
» Nous avons vu à l'évidence des scènes de guerre civile. Je vois pas bien le rapport entre le football, la victoire d'un club de foot du Paris Saint-Germain dont il faut se réjouir et se féliciter, et les drapeaux palestiniens que j'ai pu voir, par exemple. Je ne vois pas bien le lien entre la victoire d'un club de football et la nécessité de mobiliser près de 22 000 policiers, notamment dans l'agglomération parisienne, parce qu'on sait que ces territoires sont fracturés. Ils sont fracturés par le communautarisme, ils sont fracturés par la présence autour de Paris de nombreux quartiers sensibles. Souvenez-vous de cette finale en 2022 entre Liverpool et le Real Madrid
au Stade de France,
où on a vu des razzias de jeunes qui sont descendus des cités pour piller les supporters, pour piller les supporters britanniques notamment, pour casser, pour vandaliser.
Pour vous, ce sont les mêmes. Vous avez dit tout à l'heure, je voudrais réveiller les Français parce que demain, ils viendront fracasser les portes de vos immeubles. Ils rentreront dans les immeubles. C'est qui, ils?
Ce sont ces jeunes qui se comportent comme des prédateurs. Ce sont ces jeunes qui, bien souvent, sont en situation d'échec scolaire, qui expriment régulièrement leur contestation de l'autorité, leur contestation de notre identité, de notre langue, de nos valeurs, de nos policiers. Je vois pas encore une fois bien le rapport entre la victoire d'un club de football et le fait de cibler des forces de police au tir de mortier lorsque l'Olympique de Marseille dans les années 90 a remporté la Ligue des Champions. Je ne crois pas qu'il y ait eu nécessité de déployer des forces de police pour arrêter des cassages d'abribus ou pour abriter des incendies de voitures. Vous mettez à la place, madame, et je sais que vous le faites et que vous donnez régulièrement la parole aux honnêtes gens, mais des Français qui se réveillent le matin, qui travaillent très dur et qui voient leur voiture incendiée. Des gens qui se lèvent très tôt le matin, qui vont bosser et qui en ont ras-le-bol de payer pour les autres, de payer pour ceux qui ne font rien et pour ceux qui cassent tout. Donc, si demain nous sommes à la tête du pays, nous sifflerons la fin de la récréation. Il faut d'abord mettre en place systématiquement le principe du casseur-payeur. Et deuxièmement, nous sommes favorables à la suppression des allocations familiales aux parents de mineurs récidivistes, parce qu'il y en a assez que les gens qui travaillent, que les gens qui bossent et qui se lèvent le matin soient contraints de payer pour ceux qui cassent tout. C'est insupportable.
Casseur-payeur, allocation.
Comme beaucoup de Français, insupportable de voir la septième puissance économique mondiale être tenue en échec par des hordes de prédateurs.
Jordan Bardella, vous avez vu les mots de Geert Wilders, le néerlandais, les mots d'Alice Wieder, qui est à la tête de l'AFD en Allemagne. Geert Wilders, il dit, avec des images de ce qu'il s'est passé samedi soir, arrêtez-les et déportez-les tous. Alice Wieder, elle dit, remigration, est-ce que vous vous sentez proche de cette analyse-là?
Non, moi je me sens proche de l'analyse qui consiste d'abord à faire preuve de la tolérance zéro à l'égard de ce type de comportement.
Oui, mais vous avez donc parlé de migration.
Je l'ai dit. Oui, je pense qu'il y a un lien évidemment avec l'immigration.
Alors maintenant, je vous pose
la
question.
Première
est-ce
mesure,
que,
madame.
Est-ce que, vous pensez comme eux?
Je ne vois pas sur les mots. Le premier moyen pour établir la sécurité en France, c'est d'arrêter l'immigration. Voyez.
Mais vous n'allez pas renvoyer chez eux des gens qui sont là depuis deux générations, une génération?
Alors, non, mais en revanche, nous allons expulser systématiquement les délinquants et criminels étrangers. Deuxièmement, si on n'arrête pas les flux, on ne peut pas relancer la politique d'assimilation.
La plupart sont nés en France.
Oui, mais le savent-ils?
Ils ont été élevés en France.
Oui, mais le problème, c'est qu'on a fait venir dans notre pays, et c'est le problème de l'effondrement de l'école, de l'effondrement de notre système culturel, de notre politique
d'assimilation. Est-ce que vous condamnez les propos d'Alice Weidel qui dit remigration?
Alice Weidel est une députée allemande. Donc, je ne vais pas me mettre à condamner. Oui, enfin, l'AFD, parce qu'elle est la présidente d'un parti politique allemand qui s'appelle l'AFD, ne siège pas dans le groupe du Rassemblement National au Parlement européen.
Mais vous avez déjeuné avec elle?
Oui, j'ai déjeuné avec elle il y a peut-être trois ans. Oui, c'est ça.
Deux ans, me semble-t-il. Oui. Geert Wilders, vous vous êtes retrouvé avec lui à un rassemblement des patriotes à Milan.
Donc, vous pensez qu'avec ce qu'on vient de vivre ce week-end, le sujet, c'est d'aller observer les déclarations de responsables politiques.
Ma question, c'est jusqu'où vous allez, dans la logique, puisque vous dites, c'est un problème, je l'entends parfaitement, hein, vous dites, vous l'avez exprimé, c'est un problème qui est lié à l'immigration.
Absolument.
Maintenant, je vous pose la question, c'est un problème lié à l'immigration, mais les jeunes, la plupart de ceux qui ont été arrêtés, ils sont de nationalité française.
Absolument.
Ils sont nés en France.
Absolument. Mais il y a un lien évident avec l'immigration, et c'est la raison pour laquelle je vous explique depuis quelques minutes que nous avons un problème avec notre politique d'assimilation. Donc c'est très simple, ceux qui sont étrangers, qui commettent des crimes ou des délits, seront expulsés. Ceux qui sont français devront se confronter à un système pénal qui aura été remis en ordre et qui fera preuve de la fermeté la plus totale.
Donc
nous allons rétablir, madame, des peines planchers. Lorsque vous vous en prenez, par exemple, à un policier, que vous attentez à l'intégrité physique de la personne, qui doit retrouver un caractère sacré dans le droit français, il ne sera plus possible d'aménager les peines. Il y a des peines maximales dans le droit français. Il doit donc exister des peines minimales et nous les mettrons en œuvre à compter du printemps 2027 si nous arrivons à la tête du pays. Deuxièmement, nous devons développer des lieux d'incarcération pour les mineurs. Une grande partie de cette délinquance est liée à notre impuissance totale à l'égard de la délinquance des mineurs depuis trop longtemps. Donc si demain nous sommes en capacité de diriger le pays, nous développerons des lieux d'incarcération pour les mineurs. Il y a aujourd'hui une cinquantaine de centres éducatifs fermés qui sont en nombre dérisoire. Et sur le modèle des pays d'Europe du Nord, nous développerons des peines courte, applicable immédiatement, dont la récidive entraînera une multiplication.
Parmi les personnes interpellées, il y en a une partie qui sont mineures, mais pas tant que ça. Et ces mineurs de l'an dernier, par exemple, ont pris pour la plupart, en effet, plutôt des avertissements que des. C'est une peine, mais qui sont pas forcément des peines d'emprisonnement à proprement parler.
Je pense que les peines de privation de liberté doivent être systématiques parce que quand on s'en prend à un policier, qu'on tire au mortier sur un fonctionnaire de la République française, quand on détruit un abribus, quand on pille des magasins comme ça a été le cas samedi soir sur les Champs-Élysées, quand on chahute en meute des supporters anglais et que ces images font le tour du monde, comprenez bien que quand vous avez en face de vous un État qui non seulement ne fait plus peur, est incapable de soutenir ceux qui protègent la population française, mais qui en plus vous applique un avertissement, alors le caractère dissuasif n'existe pas. Donc il faut revenir à un caractère dissuasif de la peine.
890 interpellations, Laurent Nunez dit la situation était globalement sous contrôle.
Bah heureusement qu'elle... Alors, qu'est-ce que ça aurait été si la situation n'avait pas été sous contrôle? Voyez bien que, madame, quand on a des représentants de la République française et des députés qui sont proches de Monsieur Macron ou de Monsieur Attal, et je pense à Karl Olive, qui monte sur une voiture, sur un capot de voiture avec des jeunes...
Il a reconnu a posteriori que c'était assez puéril et que c'était la voiture, dit-il, d'un de ses amis.
Le symbole et l'appel d'air qui est lancé. Quand vous avez des députés de la France Insoumise, j'ai entendu Madame Clémence Guettet, députée de la France Insoumise, proche de Monsieur Mélenchon, qui, dans un tweet, appelle les forces de police à quelques heures des incidents que nous avons vécu.
Elle l'accuse, la police, d'avoir, je cite, chargé des gens qui ne commettaient aucun débordement.
Voilà. Mais comment vous pouvez vous étonner derrière que des jeunes qui voient ces symboles de la République française se fourvoyer dans la violence, dans l'incitation à l'insurrection et au désordre? Comment peuvent-ils ensuite prendre ces gens-là comme modèle et comprendre qu'ils doivent se tenir à carreau? Donc, nous allons profondément changer la doctrine, non seulement de la sécurité en France, mais changer précisément la doctrine pénale. Et alors, on a bien vu l'aperçu samedi soir dans les rues de Paris de la nouvelle France de Jean-Luc Mélenchon. La France du tous contre tous, de l'insurrection et peut-être demain de la guerre civile.
Pour vous, c'est une France qui vote LFI, celle qui était dans la rue?
Ah bah, à mon avis, elle ne vote pas pour le Rassemblement National, ça je peux vous l'assurer, oui. En revanche, ceux qui ont vu leur véhicule brûler et leur commerce cassé, très certainement ont beaucoup plus de sympathie pour moi et pour Marine Le Pen qu'ils n'en ont pour Jean-Luc Mélenchon.
Vous avez dit, Jordan Bardella, on en a ras-le-bol. Le mot, il a été aussi prononcé par le président de la République, Emmanuel Macron, qui dit ras-le-bol, c'est fini, je ne veux pas qu'on s'habitue à ça, on n'en veut plus.
Bah, c'est dommage qu'il ne puisse pas se présenter à l'élection présidentielle pour nous éclairer de ses analyses sécuritaires et de la fermeté qui est aujourd'hui attendue par les Français. Ça fait 10 ans qu'il est au pouvoir. Ça fait 10 ans que l'insécurité explose. Ça fait 10 ans que la politique d'immigration dans notre pays est hors de contrôle. Je me rappelle d'un président de la République qui, à vos confrères de Brut, il y a quelques années, parlait de violence policière en épousant les thèses de l'extrême gauche et de Jean-Luc Mélenchon. Je me souviens d'un ministre de l'Intérieur, monsieur Castaner, qui indiquait qu'il fallait poser un genou à terre devant tout ce que notre pays comptait de mouvances anti-flic et de mouvances d'ultra-gauche. Donc, vous voyez bien que c'est un changement de mentalité. Donc, si demain nous sommes à la tête du pays, non seulement nous mettrons en place une politique sécuritaire et une politique pénale qui protégera les Français, qui mettra hors d'état de nuire les prédateurs, les mineurs, les majeurs, mais d'abord et avant tout les récidivistes, et surtout nous reprendrons la main sur l'école, parce qu'on voit bien aujourd'hui que l'école n'est plus capable de fabriquer des citoyens éclairés, capables d'aimer le pays, de partager le roman national. Bah, je pense qu'il faut totalement changer.
Mais les profs sont là, ils seront encore là.
Encore faut-il qu'ils soient soutenus. Vous voyez, par exemple, dans le choc d'autorité que nous proposons à l'école, nous souhaitons bannir l'usage des téléphones portables au collège, mais aussi au lycée. Nous souhaitons rendre le vouvoiement obligatoire. Nous souhaitons, par exemple, qu'il puisse y avoir une tenue uniforme à l'école. Une tenue unique, ça ne veut pas dire un uniforme forcément dégradant.
Ça n'a pas totalement fait ses preuves. Vous l'avez vu, il y a eu des études qui ont été faites, il y a eu des thèses qui ont été faites.
Perpignan, qui est dirigé par Louis Alliot, s'est porté volontaire pour précisément expérimenter cette tenue. Je pense que d'avoir une tenue unique qui bannissent les différences sociales entre les élèves, qui permettent de recréer du commun. On manque de structure.
Pour vous, tout ceci.
On manque de politique qui recrée du commun. Et ce n'est pas une mesure qui va permettre de soigner la situation. Mais je dis aux Français, réveillons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Et dans quelques mois, lors de l'élection présidentielle, il n'y a que deux possibilités qui vont s'offrir à vous. Soit continuer comme avant, continuer avec les mêmes, continuer avec des gens qui ferment les yeux sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre pays et dans tous nos territoires, ou alors voter pour des gens qui ont l'intuition et qui, au fond d'eux-mêmes, le sentiment que le pronostic vital de la France est engagé.
Maintenant, je vous pose la question de l'efficacité de vos mesures. Encore une fois, imaginons, vous êtes élu, il y a la Ligue des Champions. Est-ce que vous en venez presque à espérer que le PSG ne gagne pas une troisième fois ?
De toute manière, qu'il gagne ou qu'il perde, une grande partie des supporters casse quand même. Et je pense que tout le monde a une responsabilité, que le Paris Saint-Germain a une responsabilité, que la direction du Paris Saint-Germain et du club de foot a aussi une responsabilité et doit nécessairement, madame, à chaque fois qu'il y a des manifestations de ce type, appeler l'ensemble des supporters au calme, à la retenue et à la responsabilité, même si...
Les joueurs ont dit, il faut être sage, soyez sage en fêtant la victoire. Vous avez entendu Nasser qui lui aussi a dit qu'il condamnait, et les joueurs ont applaudi Emmanuel Macron lorsqu'il a dit qu'il condamnait les violences. Ça vous suffit pas?
Ils ont eu raison de le faire. Mais il faut distinguer ce qui relève de la des festivités, ce qui relève de la fête et ce qui relève de cette victoire dont beaucoup de Français se réjouissent.
Je vous pose la question de l'efficacité.
On est en train de s'habituer à l'irrémédiable et donc il va falloir muscler les dispositifs de maintien de l'ordre dans ce type d'événement. Moi, je suis favorable, par exemple, à ce qu'on développe la reconnaissance faciale pour favoriser l'identification des perturbateurs et des prédateurs.
Bruno Retailleau, il est favorable aussi.
Je pense qu'une majorité de Français est favorable à toutes les mesures qui permettront de renforcer la sécurité.
Donc reconnaissance faciale.
Il faut que la politique pénale suive. Il faut réformer totalement notre politique pénale et faire en sorte que lors de ce type d'incident, l'avertissement ne soit pas la norme et la mesure privative de liberté, l'exception, mais que ce soit l'inverse. Et enfin, il faut reprendre la main sur notre politique d'immigration avant qu'il ne soit trop tard.
Quand vous dites les casseurs payent et éventuellement une suspension des allocations pour ceux qui auraient commis des méfaits, vous faites comment ? Gabriel Attal, il dit aussi, tu casses, tu payes.
Eh bien, je vais systématiser un principe qui existe aujourd'hui dans la loi et qui est malheureusement trop peu utilisé, qui veut que lorsque... par exemple, vous détruisez un abribus, le fait de devoir payer cet abribus en retour n'est pas systématique. Donc, ça prendra le temps que ça prendra.
Bruno Retailleau parle du rétablissement d'une responsabilité financière solidaire.
Si le mineur ne peut pas payer, alors ce sont les parents qui paieront et ça prendra le temps que ça prendra. Mais il faut aussi, lorsqu'il y a des carences éducatives qui sont manifestes, mieux responsabiliser les parents. Moi, je pose une question très simple. Sur les vidéos que nous avons vues circuler, vers minuit, 1h du matin, on a vu beaucoup de mineurs dans les rues de Paris. casser et s'en prendre aux policiers. Ils sont où les parents ? Que font les parents ? Donc il faut évidemment mieux responsabiliser les parents. Et si demain je suis chef du gouvernement, je donnerai instruction au préfet pour que les allocations familiales soient systématiquement suspendues en cas de récidive. Voyez bien que c'est toute une philosophie qu'il faut changer. Et que lorsque nous avons deux candidats à l'élection présidentielle, qui sont les héritiers d'Emmanuel Macron, monsieur Édouard Philippe et monsieur Macron, qui n'ont pas eu un... Pardon, monsieur Attal, le lapsus, Macron junior, qui n'ont pas eu un seul mot, madame. Il n'y a pas une seule déclaration de leur part sur les violences. Eh bien, permettez-moi de vous dire que si ces deux personnalités devaient se retrouver au pouvoir dans quelques mois, dans la continuité d'Emmanuel Macron, eh bien, ça promet.
Merci, Jordan Bardella, d'avoir répondu à mes questions ce matin. Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Dans un instant sur RMC, à 10 jours de la Coupe du Monde, on va prendre la température aux États-Unis. On sera en direct de Miami avec l'envoyé spécial d'RMC. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h51 sur RMC. La Coupe du Monde de foot, c'est dans 10 jours, mais ça commence ce matin sur RMC.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Toute la semaine à 8h50, on va aller prendre la température aux États-Unis, comprendre comment l'Amérique de Donald Trump se prépare à accueillir l'événement le plus suivi du monde. Bonjour Martin Bourdin.
Bonjour Apolline,
bonjour à tous. Martin, il est le milieu de la nuit pour vous. Vous êtes notre envoyé spécial aux États-Unis en direct de Miami pour RMC. Martin, racontez-nous, est-ce que ça sent la Coupe du Monde déjà ou pas du tout ?
Je vais vous répondre avec une question, Apolline. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que j'ai appris à certains Américains, là, depuis que je suis arrivé, que des matchs allaient avoir lieu à Miami ?
Vous voulez dire qu'ils ne le savaient même pas ?
Et non, ils ne le savaient pas et je vous avoue que je m'y attendais pas du tout. Ça s'est passé plusieurs fois pourtant depuis que je suis arrivé et je trouve que c'est assez symptomatique finalement de ce que je vois depuis 3 jours. Cette Coupe du Monde, pour le moment, elle est très discrète, elle est même invisible à l'aéroport. Pas le moindre produit dérivé là-bas dans le hall de l'aéroport, c'est pas beaucoup mieux en ville, hormis autour du site de la future fan zone où tout est en train d'être installé petit à petit. Ailleurs, ce mondial n'est pas vraiment présent, ni dans les rues, ni d'ailleurs dans les conversations.
Ils parlent de quoi là, les Américains ?
Eh bien, ils parlent des mêmes sujets que les Français. Ce qui les préoccupe, eux, c'est le budget, comment ils vont finir les fins de mois. Évidemment, eux aussi subissent les conséquences de la guerre au Moyen-Orient, de la guerre en Iran, notamment quand ils vont, comme nous, en France, à la pompe à essence.
Avant, un plein d'essence, c'était $40. Là, regardez, on est déjà au-delà. C'est autour de $60-65 maintenant.
Ici, les clients paient autour de $4.50 le gallon d'essence. C'est à peu près l'équivalent de 3 litres et demi. Alors, c'est moins cher qu'en France, mais c'est 50% de plus qu'au début du mois de mars.
Je n'ai jamais vu des prix aussi élevés de toute ma vie. Ce n'est vraiment pas un plaisir. J'aimerais acheter des vêtements, mais je ne peux pas. Alors j'essaie de trouver des produits moins chers, des magasins moins chers pour économiser de l'argent. Je réfléchis aussi à prendre un logement plus petit. Je n'y connais rien au foot, mais on ne devrait pas célébrer quoi que ce soit en ce moment.
Donc si je comprends bien Martin, on n'a pas trop envie de faire la fête là, à 10 jours du mondial, hein ?
Non, on n'a pas du tout envie de faire la fête. Quoique, ça dépend à qui on parle. Il y en a qui sont à fond quand même ici à Miami. Ce sont les Latinos, les habitants nombreux dans cette ville évidemment originaires d'Amérique du Sud. Pour eux, le foot, c'est presque une religion. Et ce qu'on espère surtout ici finalement à Miami, c'est que cette Coupe du Monde permette de changer un petit peu les idées, sortir un petit peu de ce contexte économique très pesant. C'est Brian, un père de famille, qui résume ça le mieux.
Tout le monde cherche un moyen de se changer les idées et ça sera la Coupe du Monde. Ça va nous permettre de faire quelque chose qu'on a vraiment envie de faire, de profiter de la vie. Peu importe ce qui se passe. On voit tellement de politique sur nos écrans aujourd'hui. Ça prend le pas sur tout et ça nous affecte tous, le coût de la vie. Donc la Coupe du Monde, c'est une bénédiction pour nous changer les idées et profiter.
Et ils en ont besoin, les Américains. Récemment, un sondage expliquait que plus de la moitié d'entre eux estimaient être dans une situation économique pire qu'après la crise de 2008, par exemple, pire qu'après les attentats du 11 septembre. Et ça se traduit très concrètement. Vendredi, un père de famille m'a confié carrément, il était un peu honteux quand il m'a dit ça. On mange moins en ce moment, on achète moins à cause des prix, parce que les prix augmentent aussi dans les magasins, les œufs, le lait, la viande et notamment le poulet. Voilà les exemples de produits qu'on m'a cités et dont les prix ont explosé ces dernières semaines ici aux États-Unis.
Merci beaucoup Martin, quel plaisir de vivre avec vous cette avant-Coupe du Monde. Vous allez nous raconter toute la semaine l'Amérique qui s'apprête donc à accueillir la Coupe du Monde. Martin Bourdin, tous les jours, donc en direct avec nous depuis les États-Unis. Je vous rappelle qu'RMC est radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 avec 100% des 104 matchs qui seront commentés en direct sur notre antenne.
RMC, le mondial de Virginie.
Retour en France côté terrain jusqu'à la finale, Virginie Fulpin. On va vivre cette Coupe du Monde avec vous. Bonjour Virginie. Ce mondial, ce sera à la fois le plus ouvert de l'histoire et le plus fermé. Comment vous expliquez ça?
Oui, c'est paradoxal. On n'a jamais vu autant d'équipes participer à une Coupe du Monde. 48 en 2022. La dernière fois, il y en avait que 32. Et je vous parle pas de la première Coupe du Monde en 1930 en Uruguay où il y avait 13 participants. C'était la Coupe d'un tout petit monde quand même. Aujourd'hui, il y a plus de pays membres de la FIFA que d'États membres à l'ONU, 211 contre 193, donc on ne peut pas vraiment s'étonner de la voir élargir sa compétition phare.
48 équipes, ça permet de voir des équipes qu'on ne connaît pas vraiment.
Je serais bien embêtée là, si je devais vous donner le 11 titulaire du Curaçao, par exemple. Hein, la minuscule île des Caraïbes et ses 150 000 âmes est le plus petit pays à participer à une Coupe du Monde. Ça fait partie des charmes d'un mondial, de voyager, de découvrir des cultures. Même si, sur le strict point de vue du football, le Curaçao risque bien de repartir avec 3 défaites au compteur et un goal average qui va se rapprocher des abysses face à l'Allemagne, à la Côte d'Ivoire et à l'Équateur. Un mondial à 48 équipes, c'est sympa, mais ça ne relève pas forcément le niveau du football. Non, ce que cherche la FIFA, c'est à développer son sport partout dans le monde. Et plus vous avez de participants, plus l'intérêt augmente. C'est logique, à la fois géopolitiquement et économiquement.
Le problème, c'est que les supporters n'en profitent pas forcément.
Bah, suivre son équipe, c'est un luxe cette année. La FIFA n'a pas plafonné ses prix. Donc pour les billets, c'est au moins 100 euros pour un match de poule, 1200 pour la finale, le double de ce qui se pratiquait au Qatar. Pourtant, ces billets, bah, ils se vendent, hein, mais pas forcément aux mêmes catégories de population. Quand on parle de Coupe du Monde fermée, c'est aussi pour des raisons politiques. Les États-Unis distribuent les visas au compte-gouttes, notamment pour ceux qui suivent des équipes de pays ennemis. L'exemple le plus criant, évidemment, c'est l'Iran. L'équipe iranienne a son camp de base au Mexique, mais ses matchs aux États-Unis, il va falloir passer la frontière 3 fois. Ça peut coincer à tout moment. Et puis hier, par exemple, même l'équipe sud-africaine a dû retarder son départ pour un problème de visa.
Et pour l'équipe de France, en revanche, c'est une Coupe du Monde ouverte.
Ouverte d'abord parce qu'elle est favorite, et puis aussi parce qu'il y a une sorte de prophétie qui annonce que l'équipe de France sera battue en finale. Pourquoi? Parce qu'il y a des parallèles troublants avec ce qui s'est passé il y a 20 ans. En 2006, par exemple, Arsenal avait perdu la finale de la Ligue des Champions. Je crois me rappeler que c'était la même chose avant-hier. Ce qui est sûr, c'est que l'équipe de France ne perdra pas contre l'Italie en finale, puisqu'on le rappelle, les Italiens ne sont pas qualifiés.
Mais ça, c'est vrai que c'est quand même fou et dur. Merci en tout cas, Virginie. Le mondial de Virginie, c'est tous les matins sur RMC. Début officiel de la Coupe du Monde, c'est dans 10 jours. À suivre avec la Dream Team RMC, bien sûr, et nos 4 champions du monde, Samuel Umtiti, Emmanuel Petit, Christophe Dugarry et Lionel Charbonnier. Dans un instant, les GG, Alain Marchal est là. Salut Alain, quel est le programme?
Bonjour à tous, les grandes gueules avec aujourd'hui Charles Consigny, Barbara Lefebvre et Laura Barton-Martinez. On reviendra sur les incidents, sur les violences après la finale de Coupe d'Europe, après le titre du Paris Saint-Germain. Pourquoi est-ce que chaque dispositif se fait déborder? 32-16 pour en parler avec les GG.